Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Il aura fallu la garde à vue prolongée de Carlos Ghosn, l'ex-samouraï de l'industrie automobile, longtemps célébré comme tel par les médias japonais, pour vérifier à quel point la culture et les mœurs de l'Empire du Soleil Levant nous demeurent largement étrangères. Au-delà de la présomption d'innocence dont l'ancien patron de Renault-Nissan doit bénéficier, au-delà des diverses théories du complot qui fleurissent depuis lundi dernier, jusqu'où le Japon d'aujourd'hui tolère-t-il le rôle d'étranger dans son économie? La notion d'identité dans l'archipel s'accompagne traditionnellement de l'impératif de pureté ethnique. Longtemps, l'immigration a été un sujet tabou, et voilà pourtant que le Premier ministre Shinzo Abe veut élargir un programme d'accueil à durée limitée pour ceux qu'il appelle des travailleurs invités. Une façon de reconnaître que le Japon doit lutter contre sa propre démographie. Le pays perd 500 000 de citoyens par an, la population vieillit à toute allure et le taux de fécondité continue de fléchir. Quelles conséquences économiques, sociales et culturelles? Le Premier ministre semble assuré d'un troisième mandat, que va-t-il en faire? Quelle riposte face aux ambitions régionales du grand rival, la Chine, et au protectionnisme de l'administration Trump? Le déclin démographique est-il le signal du déclin tout court? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Guy Bourg de la Motte, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Jean-Christophe Dumont, merci d'être avec nous. Vous dirigez la division des migrations internationales à l'OCDE. Depuis France Bleu Gironde à Bordeaux, Sébastien Chevalier, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et président de la Fondation France-Japon. Depuis Tokyo, Philippe Debroux, vous enseignez le management international et la gestion des ressources humaines à l'université Soka, à Tokyo donc. Et depuis Tokyo aussi, j'ai pu enregistrer hier un entretien avec Jean-Marie Bouissou, qui est directeur de recherche à Sciences Po et grand spécialiste du Japon contemporain. Et j'ai précisément commencer par lui demander quel a été ou quel est toujours le traitement médiatique et politique de l'affaire Ghosn vue de Tokyo et jusqu'à quel point est-ce que cette affaire remet en cause le rôle des étrangers dans l'économie japonaise. Sa réponse.
L'affaire Ghosn n'est pas considérée comme un scandale. C'est un choc, certes, mais pas un scandale. Tous les indices pointent sur une affaire qui a été concertée entre Nissan et les autorités. La manière dont Carlos Ghosn a été intercepté à son arrivée, la manière dont la télévision nationale NHK en a rendu compte, qui a immédiatement été très peu favorable à Carlos Ghosn, je dirais que ça conforte tous les préjugés que les Japonais nourrissent traditionnellement à cet égard. Que Carlos Ghosn ne savait pas se comporter vis-à-vis des Japonais, que Carlos Ghosn a essayé de tromper les Japonais, etc., etc. Ça traîne dans tous les éditoriaux. Les Japonais l'ont pris comme une chose parfaitement naturelle. Oui, c'était un étranger. Oui, il était peut-être bon techniquement, mais non, il ne savait pas se conduire. Donc ça, de ce point de vue-là, il ne va pas y avoir révolution. Ça va juste conforter les Japonais dans des idées reçues extrêmement bien enracinées.
Guy Bourg, de la mode des idées reçues, nous en avons aussi, évidemment, vis-à-vis du Japon, que l'on perçoit toujours, vu d'Europe, comme une société extraordinairement fermée et hantée par cette notion de pureté ethnique.
Alors oui, c'est vrai, ça c'est une idée reçue qui en l'occurrence a certainement quand même un fondement de réalité, enfin étant donné que c'est quand même très largement l'idée que l'image que les Japonais ont d'eux-mêmes, il faut bien reconnaître. Alors, et ça reste quand même assez fondé. Le fait est qu'ils ont un petit peu quelques étrangers, mais enfin beaucoup moins que nous, à peu près 2% de la population.
Oui, et c'est pas grand-chose, hein. C'est sur 126 millions d'habitants, c'est pas grand-chose.
Exactement. Et puis en plus, c'est quand même largement une immigration d'origine asiatique, donc qui malgré tout se font quand même assez facilement, en particulier quand elle est d'origine chinoise ou coréenne, et puis quand elle est un peu ancienne. Visuellement, elles se font quand même facilement dans la population japonaise.
Mais avec un racisme anti-coréen en particulier, qui reste très présent.
Oui, alors le racisme, enfin disons qu'il y a une animosité à l'égard de des Sud-Coréens qui est assez conjoncturel et historique, ouais. Oui, mais enfin qui dépend de la politique et des relations qui sont entretenues par ailleurs avec entre les chefs d'État. Et puis il y a peut-être un racisme un peu plus profond effectivement à l'égard de la population chinoise, mais ça aussi c'est quand même très lié, c'est quand même assez récent et lié quand même aux animosités qui sont entretenues, disons malgré tout plus par les Chinois et les Sud-Coréens en ce moment que du fait du Japon depuis disons une dizaine d'années. En tout cas, depuis que Monsieur Abe est depuis 2013, on va dire, le Japon a fait un effort en matière de questions historiques. Donc, ce racisme qu'on note effectivement, c'est une forme de lassitude. Bon, et puis c'est vrai qu'il y a certainement un racisme un peu ancré, oui.
Il y a eu un moment très intéressant quand c'est une japonaise, entre guillemets, qui a gagné l'US Open. C'était en septembre dernier, donc en battant Serena Williams. Et alors cette jeune femme a un père qui est haïtien-américain et une mère japonaise, mais du coup les médias japonais ont considéré pour une fois qu'elle était franchement japonaise.
Oui, absolument. Mais ça, c'est une tendance qu'on voit dans le sport, en particulier dans le sumo et même dans le judo, où les étrangers excellent maintenant. Mais dans le sumo en particulier, comme ce sont des entraînements pour le sumo extrêmement épouvantablement difficiles, en plus, il y a des problèmes de brimade, etc. Eh bien, il y a beaucoup plus de grands sumotori qui sont en fait mongols et donc ils sont plus du tout en fait japonais. Il y en a presque plus qu'il soit japonais.
Demeure néanmoins la culture d'entreprise. On se souvient d'ailleurs du livre d'Amélie Nothon, qui est la marraine du Salon du Livre à Radio France, aujourd'hui et demain. Donc nous vous invitons bien évidemment à venir nous rejoindre cet après-midi et demain. Oui, Amélie Nothon qui avait donc raconté cette espèce d'ankylose absolue, hiérarchique, au sein de l'entreprise japonaise.
Oui, bien sûr. Alors Amélie Nothon, son livre, c'est amusant parce qu'en effet, disons qu'il y a il y a cette idée que les étrangers ne se comportent pas bien. À Amélie Nothon, elle donnait exactement cet exemple dans le livre, parce que de fait, elle se mettait à faire le travail des autres. Donc évidemment, c'était mal accepté. Forcément, dans une entreprise, vous mettez à distribuer le courrier, évidemment qu'il y a des gens qui sont chargés de le faire. Donc là, en l'occurrence, si vous voulez, moi j'étais assez acquise à la vision japonaise, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec Monsieur Ghosn et le reste de notre sujet ce matin, mais...
Jean-Christophe Dumont, je rappelle que vous êtes le chef de la division des migrations internationales à l'OCDE. Ce qui est très clair, c'est que cette chute démographique du Japon, elle est pratiquement unique au monde. Enfin, même si l'Allemagne, on le sait, a aussi une démographie déclinante, la Corée du Sud aussi, je crois. Mais expliquez-nous comment et pourquoi ce problème de la démographie qui pose la question du rôle des étrangers aujourd'hui au Japon, pourquoi est-ce qu'il est tellement aigu ?
Alors, c'est pas le seul pays dans le monde qui voit sa population vieillir très rapidement. Vous avez cité effectivement le cas de l'Allemagne, on peut penser à la Russie et évidemment à la Chine, qui vieillit aussi très vite. Mais ce qui caractérise peut-être le Japon, c'est que ce vieillissement, il se fait aux deux extrémités, par le haut et par le bas, à la fois par l'allongement de la durée de vie. L'espérance de vie au Japon est de 85 ans, près de 88 ans pour les femmes, c'est parmi les niveaux les plus élevés, et aussi par le bas, parce que le taux de fécondité a beaucoup baissé, et maintenant il est à 1,4. Donc on est loin du taux de renouvellement qui est théorique, qui est à 2,1. Depuis 2005, il y a plus de décès que de naissances au Japon. Et donc ce qu'on voit, c'est évidemment une baisse de la population, 126 millions en 2015, qui d'ici 2050 baisserait de 25%. Je pense qu'une des clés au Japon, c'est ce chiffre de 100 millions. Le gouvernement japonais s'est engagé à maintenir la population au-dessus de 100 millions et donc a mis en place un certain nombre de mesures pour relancer la natalité.
Et donc aujourd'hui, au Japon. 126. Hein.
Voilà, aujourd'hui oui. 126, mais 100 millions apparaît comme, disons, un chiffre un petit peu fétiche. En parallèle, évidemment, c'est la population d'Ajaccio qui baisse. baisse. Et celle-là, elle baisse depuis le milieu des années 90. On est environ à 50 millions d'actifs, alors que en 95, on était à 80 millions. Donc c'est une tendance très lourde. Et ça a un impact, évidemment, sur le marché du travail. Le taux de vacances d'emploi, c'est-à-dire le rapport entre les offres d'emploi et le nombre de personnes qui postulent, est aujourd'hui à son niveau le plus haut depuis 1963. Donc on ressent directement cette pression de la démographie sur le marché du travail, ce qui a amené dans les années 90 déjà à une certaine ouverture. Puisqu'il y a eu un certain nombre de programmes, on y reviendra peut-être, mais notamment vis-à-vis des descendants de Japonais en Amérique latine et puis évidemment les programmes de stagiaires. Mais les limites de ces programmes aujourd'hui sont criants. Il y a le nombre de Brésiliens, par exemple, a beaucoup baissé.
Les limites qui sont dues à quoi ? À la langue, déjà, parce qu'il y a un impératif absolu. Il faut maîtriser la langue.
Il faut maîtriser la langue. Alors, en ce qui concerne les Japonais d'origine ethnique, comme je disais, il y a eu beaucoup de Péruviens et puis de Brésiliens notamment. Le chiffre a baissé ces dernières années, y compris parce que les conditions d'insertion de ces gens-là sont extrêmement difficiles et limitées, et puis aussi parce que le pool baisse, quoi, le nombre de personnes qu'on peut faire venir baisse. En ce qui concerne le programme de stagiaires, il était principalement orienté vers la Chine. Et évidemment, le développement en Chine fait que, aller faire stagiaire au Japon, dans les conditions qui sont offertes, c'est plus attractif du tout. Donc on a vu une forte montée des Vietnamiens, mais ça ne suffit pas à répondre aux besoins. Et puis les besoins ne sont pas juste sur les peu qualifiés dans le secteur manufacturier, comme c'était le cas dans les années 90. Mais le Japon prend conscience du fait que dans la compétition internationale, il faut aussi qu'ils attirent les talents. Et pour ça, effectivement, il y a de grandes difficultés.
De grandes difficultés qui sont évidemment accrues par le fait que la génération du baby-boom, il y a eu au Japon aussi un baby-boom, cette génération-là arrive à l'âge de la retraite. Philippe Debroux, bonjour. Merci mille fois d'être avec nous par téléphone au Japon. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Soka, spécialiste du problème des retraites et de l'emploi des seniors au Japon. Expliquez-nous comment fonctionne le régime de retraite au Japon.
Le régime de retraite au Japon fonctionne de la manière suivante. Bon, tout d'abord, il n'y a pas d'âge officiel de retraite dans ce pays. Ce que la loi dit, c'est que les entreprises doivent garder les employés permanents, donc l'équivalent d'un CDI, jusqu'à l'âge de 60 ans. Mais les entreprises japonaises peuvent ne pas avoir de base de retraite du tout. Il y a environ 3-4% de grandes entreprises qui n'ont pas cela. Les entreprises peuvent établir l'âge de retraite à 65 ans. Il y a environ 15% qui le font. Le reste, donc, a un âge fixé normalement à 60 ans. Il fixe à 60 ans. Mais ce qui se passe, c'est qu'après 60 ans, les entreprises japonaises, maintenant, depuis 2013, sont obligés de garder les employés qui désirent continuer à travailler jusqu'à l'âge de 65 ans.
Ce qui est très spectaculaire...
Alors, comme l'âge de l'éligibilité pour recevoir la pension publique passe graduellement de 60 ans à 65 ans. D'ici 2025, tous les salariés ne recevront la pension publique qu'à l'âge de 65 ans.
D'accord, mais pardon, je vous interromps, parce que ce qui est très spectaculaire, d'après les chiffres que j'ai trouvés, c'est le taux d'emploi de ceux qu'on appelle chez nous les seniors, c'est-à-dire, disons, entre 65 et 69 ans, il y a près de 55% des hommes qui travaillent encore, et 35% des femmes. Et donc, c'est un pourcentage important de la population, étant donné la pyramide des âges. Hein, c'est 12,5% de la population. Comment ça marche? Donc, ce sont des gens qui quittent, disons, l'entreprise, et puis qui trouvent du travail pour compléter, donc une sorte de temps partiel pour continuer à être actifs.
Oui, d'abord, le fait, il faut bien dire que les pensions japonaises ne sont pas particulièrement généreuses. Moins généreuses qu'en France. Et qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur le marché du travail, ben, parce qu'ils en ont besoin. Parce que leur pension est beaucoup trop faible pour maintenir un niveau de vie décent. Il y a cela. Il y a le fait que donc comme je vous le disais il y a quelques minutes, les entreprises japonaises réengagent comme contractuels des employés après 60 ans. Après 65 ans, il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui continuent à garder ces travailleurs. Comme vous disiez, il y en a pas mal qui travaillent à temps partiel, mais il y a beaucoup de travailleurs entre 65 et 70 ans qui travaillent à temps complet, en fait. Les entreprises japonaises ont de plus en plus besoin de seniors. Les seniors qui ont une qualification élevée se vendent très très bien sur le marché du travail actuellement, en tout cas.
Mais il y a aussi ce principe, si j'ai bien compris, de seniorité en ce qui concerne le niveau de salaire, c'est-à-dire que les plus âgés dans l'entreprise japonaise deviennent les plus chers.
Oui, il y a cela. Bon, les entreprises japonaises ont beaucoup changé ces dernières années. La part de l'ancienneté dans la rémunération baisse progressivement. Cela dit, effectivement, quand on voit les tranches d'âge actuelles, les employés japonais entre 45 et 60 ans, 65 ans, ont effectivement travaillé avec un système à l'ancienneté. Donc pendant une quinzaine d'années, en tout cas, il y avait une période de transition où les entreprises japonaises vont effectivement avoir des coûts salariaux qui vont rester très élevés pour les tranches les plus élevées de leur main-d'œuvre. Ça, c'est certain. Après une quinzaine d'années, ça va certainement évoluer. Quand je visite les entreprises japonaises, on discute de cela. Les entreprises japonaises repensent complètement leur grille salariale, repensent complètement leur système de formation, avec l'idée d'avoir des seniors performants, continuant à pouvoir apprendre de nouvelles choses jusqu'à 65 ans et même au-delà, hein, jusqu'à 70 ans.
Monsieur Debroux, je rappelle donc que vous enseignez le management et les ressources humaines à l'université Soka du Japon, et j'ai lu quelque part que vous êtes vous-même un très bon exemple, puisque sans trahir de secret de beauté, je crois que vous avez 71 ans et vous continuez d'enseigner. Expliquez-nous le problème spécifique du travail des femmes au Japon.
Je continue à travailler à l'université Soka. J'ai même trouvé un nouveau travail dans une université américaine à Tokyo. Et donc, je travaille 4 jours par semaine. Bon, je continue à publier également. Donc, effectivement, il n'y a pas de raison pour que je m'arrête là.
Bien sûr, ça, je suis bien d'accord avec vous. Une dernière question, Monsieur Debroux, s'agissant du travail des femmes, oui. Là, il y a véritablement une dimension très spécifiquement japonaise, parce que elle reste. On voit beaucoup de femmes âgées dans les grands magasins, par exemple, ou même comme argent de la circulation à Tokyo. Néanmoins, elles sont peu présentes sur le marché du travail.
Écoutez, bon, c'est un sujet très 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 complexe. Les entreprises japonaises, depuis environ 25 ans, essayent de mettre de plus en plus de jeunes femmes dans la filière managériale. Et on voit cela. Il y a une augmentation graduelle de jeunes femmes qui restent sur le marché du travail et qui font carrière, effectivement. Donc ça, c'est indéniable. Cela dit, donc, le système se heurte à l'inertie organisationnelle, je dirais. Le système est fait pour des hommes, en fait. Et avec une très grande mobilité géographique qui est exigée, une très grande disponibilité en termes de bureau du travail, Et donc, il y a beaucoup de jeunes femmes qui commencent une carrière managériale, mais qui ne peuvent pas la poursuivre, même si elles voulaient le faire, si elles veulent avoir une famille en même temps, en fait. Le concept d'équilibre vie professionnelle, vie familiale, pénètre le système au Japon. Hein. Effectivement, ce n'est pas inconnu au Japon. Mais malgré tout, ça commence à devenir important seulement depuis une dizaine d'années. Donc là aussi, on est dans une période de transition. Mais je suis relativement optimiste. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont faire carrière dans le managérial dans les prochaines années.
Monsieur Debout, merci mille fois d'avoir été avec nous en direct depuis Tokyo. Sébastien Le Chevalier, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, président de la Fondation France-Japon. Merci d'être avec nous depuis les studios de France Bleu Gironde à Bordeaux. La pression sur le marché du travail est énorme au Japon. Le chômage est à 2,3%.
Oui, tout à fait. Hein. La situation qui était décrite par l'intervenant précédemment nous fait un peu rêver ici, vu de France. Donc un taux de chômage très très bas, un ratio demandeur d'emploi poste vacant très 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 faible. Ce qui fait que ça crée, en relation avec le sujet que nous traitons aujourd'hui, ça crée une pression pour trouver de la main d'œuvre susceptible hein, de produire. Et de ce point de vue-là, les trois, je dirais, grands directions dans lesquelles les gouvernements successifs ont travaillé sont les suivants. Le premier, c'est le sujet que nous traitons aujourd'hui, la possibilité d'augmenter la main-d'œuvre étrangère. Et c'est, donc nous aurons peut-être l'occasion de reparler plus tard de la loi que le Premier ministre Abe essaye de faire voter et de mettre en œuvre visant à accroître hein, une certaine catégorie de travailleurs étrangers. L'autre piste qui a été explorée, c'est celle de l'augmentation du taux de participation. Il faut savoir que le taux de participation sur le marché du travail, hein, pour une certaine catégorie d'âge, le pourcentage de personnes qui travaillent effectivement est plus faible, par exemple, qu'en France, qui est pourtant un pays avec un taux de participation parmi les plus faibles dans les pays de l'OCDE, et c'est notamment lié au travail des femmes. Donc, de ce point de vue-là, dans un contexte de marché du travail très tendu, il y a la volonté d'augmenter ce taux de participation, donc par le travail des femmes, par la prolongation de la vie active, vous en parliez à l'instant, des taux de participation des travailleurs seniors parmi les plus élevés de l'OCDE. Et puis la troisième piste, dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, c'est celle de l'automatisation, hein, de l'application de la robotique à des domaines qui n'ont pas été jusqu'à présent robotisés. Ça parfois relève un peu de la fiction, mais c'est néanmoins un sujet sur lequel les ingénieurs japonais, les entreprises japonaises et y compris le gouvernement travaillent hein, dans un contexte, encore une fois, de déclin de la main-d'œuvre.
Oui, le Premier ministre lui-même souligne avec optimisme et espoir à quel point l'intelligence artificielle, la robotisation, qui je crois, existe déjà même dans les PME, PMI au Japon. Encore une fois, c'est plus qu'une piste. C'est véritablement un effort collectif et un effort du gouvernement pour accélérer ce phénomène qui, au contraire, chez nous en particulier, fait plutôt peur.
Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, c'était intéressant en termes de vocable que nous parlions au Japon de robotisation il y a encore une dizaine d'années et que ce thème, enfin que cette terminologie est remplacée par celle d'intelligence artificielle, mais les technologies qui sont mobilisés sont tout à fait en lien. Hein. Il y a une continuité. Le paradoxe japonais sur cette question de la robotisation et de l'automatisation est le suivant. D'un côté, le Japon a longtemps été appelé par les économistes comme caractérisé comme le royaume des robots, à la fois en travers de production de robots pour des marchés étrangers et à travers l'usage de la robotique. Mais le paradoxe, c'est que même si le taux d'usage des robots est donc parmi l'un des plus élevés au monde, il y a eu une forme de restreinte dans les entreprises et on peut le voir quand on se promène à Tokyo, quand on prend le train, le métro, il y a énormément effectivement de guichets automatiques, etc. Mais il y a toujours une présence humaine. Donc ce modèle japonais dont nous parlons aujourd'hui, c'est à la fois un modèle donc qui peut être très robotisé, etc. Mais un modèle où la présence humaine, et notamment du point de vue du service, hein, est toujours très importante. Et c'est ça qui pose problème, à mon sens. C'est ça qui fait peser une pression très forte, une pression démographique sur la survie de ce modèle où l'homme est présent malgré des forts taux de robotisation.
L'homme est présent, mais fort peu. La femme est parmi les réformes structurelles qui restent défaillantes. On verra dans un moment avec vous, Guy Bourg-de-Lamotte, le contexte politique pour le Premier ministre Shinzo Abe. Néanmoins, pourquoi est-ce que le taux de fécondité au Japon continue de baisser? J'ai demandé à Jean-Marie Bouissou quelles étaient les raisons culturelles de ce déclin persistant de la natalité.
Alors, les raisons de cette chute de fécondité, c'est essentiellement, je crois, la situation de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes filles ont gardé pour se marier les mêmes attentes que celles qu'elles avaient il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'elles veulent un mari qui a un CDI, ce qu'on appelait autrefois un emploi à vie, et dont les revenus soient de l'ordre de 7 millions de yens par an, c'est-à-dire 50 000 euros. Donc des ambitions que aujourd'hui la plupart des jeunes gens à marier ne réalise pas. Donc il y a ces attentes. Les jeunes filles, on dirait, n'ont pas pris la mesure du changement économique en cours au Japon, c'est-à-dire de la longue crise dont il a du mal à sortir. Et par conséquent, les jeunes garçons, sachant qu'ils ne sont pas à la hauteur, puisqu'on prévoit qu'à peu près un tiers d'entre eux, au moins, n'auront jamais de CDI, ne cherchent pas vraiment à se marier. On estime aujourd'hui que plus de 40% des jeunes gens qui sont en âge de se marier, c'est-à-dire les 35 à 45 ans, vivent encore chez leur papa et leur maman. Par conséquent, ça favorise pas les rencontres. Et ils savent en plus que s'ils se marient, si un jeune homme trouve une jeune fille qui gagne sa vie, qui travaille, qui pourrait l'épouser et a deux salaires et s'en sortirait, ils savent qu'il y a des chances, si la jeune mariée attend un enfant, qu'elle perde son travail. Ça, c'est encore quelque chose qui est assez classique au Japon. Par conséquent, la crise économique est évidemment une raison majeure. La crise économique et les réajustements sociaux qui sont en cours. Il faut ajouter à cela qu'on n'a pas d'enfants au Japon si on ne se marie pas. Il y a 2% des enfants qui naissent en mariage, contre plus de la moitié en France. Donc, la crise va s'aggraver parce qu'il y a cette crise de la nuptialité.
Crise de la nuptialité, Guy Bourg-de-Lamotte, et au fond, problème des réformes structurelles que Shinzo Abe, qui est donc le Premier ministre, qui est certain de pouvoir faire un troisième mandat à partir de 2019, donc il battrait, je crois, les records de longévité politique, c'est ça?
Alors, si vous permettez, je voudrais revenir juste. Le taux de participation féminin, il est maintenant de 70%. En fait, il a bien augmenté, notamment du fait des réformes. Donc là, il y a des changements quand même.
Donc, les réformes, quel genre de réformes?
La volonté qui est quand même manifestée là maintenant depuis 2014 d'encourager les femmes à revenir au travail, de le faire davantage, etc. Bon, manifestement, le taux d'activité et de participation augmente.
Pour toutes les tranches d'âge ?
De 15, là, les statistiques que j'ai, c'est de 15 à 65 ans. Bref, les femmes en âge de travailler, quoi. Voilà. Donc ça c'est le taux de participation de fait semble être devenu supérieur à celui des femmes américaines. Voilà. On parlait du taux de fécondité. Je pense qu'il faut quand même ajouter un élément peut-être un peu plus, il me semble que c'est peut-être une vision un petit peu datée malgré tout. Les femmes ont souvent envie de travailler. Et quand elles ont envie de travailler, elles savent que si elles font un enfant, elles vont être obligées souvent d'arrêter de travailler parce que de fait, malgré ce que je viens de dire, donc l'augmentation du
taux. Oui, franchement. Rien qui soit comparable au système français ou au système européen.
Si vous voulez, le taux de participation augmente, mais c'est vrai que la qualité du travail n'est pas extraordinaire. Mmh. Donc souvent, ce sont des petits jobs, ce sont des choses qu'elles font en plus, ce sont du travail à mi-temps, etc. Et donc, c'est des femmes qui sont diplômées d'université, qui sont embauchées dans une grande entreprise, elles savent qu'elles ne vont pas pouvoir maintenir leur carrière telle qu'elle est si elles ont des enfants. Mais les femmes françaises sont confrontées
à la même chose. Oui, donc en gros, on dit tous à peu près la même chose là-dessus. Mais revenons sur le contexte politique.
Mais donc le taux
parce que
la baisse du taux de fécondité tient à ça,
la politique économique.
Si vous voulez.
D'accord. Mais la politique surnommée abénomique, si j'ai bien lu, donc du Premier ministre, expliquez-nous comment et pourquoi Shinzo Abe reste au pouvoir depuis si longtemps. Et quel est le système?
Oui. Alors, les raisons pour lesquelles Abe Shinzo reste au pouvoir, si vous voulez, il a été réélu donc en 2017, donc il va être au pouvoir. Là, vraisemblablement, c'est pour la législature, hein, donc en 2021. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Bon, il peut y avoir un scandale, il peut y avoir un problème, il peut y avoir voilà.
Il a déjà survécu à quelques scandales.
Oui. Et bon, il y a des élections en 2019, juillet 2019 à la Chambre haute. On verra ce que ça donne. Mais enfin, a priori, Monsieur Abe est très très susceptible. Il n'a pas vraiment de concurrent de rester. Donc au pouvoir jusqu'en 2021. Il reste au pouvoir parce qu'il est extrêmement habile, parce qu'il sait s'appuyer sur l'ensemble de son parti, parce que de fait, il est le plus convaincant. Il a extrêmement bien manœuvré entre les lobbies, la nécessité de réforme, le pragmatisme, une adaptation de ses positions pour prendre en compte à la fois les besoins, donc les besoins d'ordre politique public, et puis en même temps l'opinion publique. Donc c'est quelqu'un qui manœuvre bien et qui se maintient au pouvoir pour ces raisons.
Son électorat, donc il est à la tête du parti qu'on appelle libéral démocrate, son électorat est un électorat conservateur. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, même s'il veut donc faire passer un projet de loi pour élargir jusqu'à à peu près 400 000 autorisations, si j'ai bien lu, de travailleurs migrants qui seraient autorisés à rester au Japon pendant 5 ans et pas plus, il ne fait pas de plaidoyer public pour une politique migratoire plus offensive. Ça reste un sujet quand même politiquement très délicat.
C'est-à-dire personne ne souhaite avoir en effet une population immigrée qu'il faudra ensuite intégrer à la population, donc avoir des attentes à son égard qu'elle est peut-être pas susceptible de remplir finalement. Donc les gens qui viennent, on les fait venir pour quelques années, on leur apporte une main d'œuvre, ils apportent une main d'œuvre et nous, enfin les Japonais leur apportent des salaires, une formation qui vont emmener, ce sera un capital qu'ils rapporteront chez eux en quelque sorte. Et donc le Japon apporte une formation sans avoir d'inconvénient qui accompagne donc la venue de cette main-d'œuvre. Donc si vous laissez en quelque sorte.
Donc ça reste quand même une vision à la fois très restrictive et très protectrice, très autoprotectrice. Il n'est pas question.
Il n'est pas question de changer ni le modèle social, ni la vie des gens, ni. Voilà, en effet, c'est. Mais si vous laissez une amélioration, si on veut, parce que jusqu'à présent, effectivement, les étrangers qui souhaitaient travailler au Japon, souvent avaient donc été limités à ce système de stage, qui était. Où la rémunération est extrêmement basse, où ils étaient tenus de rester dans une entreprise. Donc si vous voulez, là, il y avait. Le système était extrêmement critiqué. Par ailleurs, il y avait un système de quotas, alors qu'il concernait un certain nombre d'États sur la base d'accords bilatéraux, donc extrêmement limitatifs également, avec une formation difficile,
Asie du Sud-Est,
des formations particulières, c'est ça, pour des infirmières, etc. On trouvait également que le niveau de langue requis était excessif. Donc là, on a quand même un système qui s'ouvre énormément, mais qui prend en compte donc les besoins dans un certain nombre de secteurs, donc de l'économie japonaise. Et si vous voulez, c'est un système qui a vocation à être gagnant-gagnant, somme toute, et qui vise donc effectivement plutôt des hommes célibataires que des familles qui veulent quitter leur pays parce qu'elles n'y sont pas bien, c'est vrai.
Et là, il s'agit donc de travailleurs non qualifiés. On ne parle plus de la catégorie des Carlos Ghosn ou d'autres grands patrons étrangers Il y a un Français notamment qui dirige, je crois, la grande entreprise pharmaceutique japonaise.
Oui, c'est effectivement. Mais alors, pour la main-d'œuvre qualifiée, la question se pose un petit peu différemment. C'est-à-dire, effectivement, quelqu'un qui. Les entreprises, par ailleurs, souhaitent recruter davantage de gens parlant anglais, davantage de gens ayant une expérience de l'étranger, donc davantage d'étrangers également. Donc, ça, c'est aussi une volonté qui est manifestée. Mais donc, ce n'est pas une politique nationale, ça, si vous voulez. Effectivement, c'est pas. Donc, en effet, la politique là, et le besoin criant, disons, de main-d'œuvre, il vise certains secteurs comme l'agriculture, comme en effet les soins médicaux, etc. Et donc là, en effet, c'est plutôt une main-d'œuvre, disons, peu qualifiée, oui, la construction.
Jean-Christophe Dumont, la façon, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, dont le Japon, en fait, doit faire face à cette chute démographique. Cela reste, par rapport à d'autres politiques migratoires très contrôlées, et notamment dans les pays d'Asie, ça reste quand même, de façon très significative, un système fermé.
Alors en fait, je pense que c'est une idée reçue. Et je vais revenir sur cette question des migrations qualifiées, parce que quand il s'agit justement de l'immigration qualifiée, la politique japonaise est une des plus ouvertes des pays de l'OCDE.
Pour les travailleurs qualifiés. Voilà, haute valeur ajoutée.
Pour les travailleurs qualifiés, ouais. Les derniers changements ont amené à permettre l'accès au statut permanent au bout d'un an, de permettre de faire venir son conjoint avec le droit de travailler, permettre de faire venir ses parents, permettre de faire venir des travailleurs domestiques si nécessaire. Donc une sorte de porte totalement ouverte sur les migrations qualifiées sans quota.
Alors les migrations qualifiées à partir de quel seuil?
Alors c'est un
quoi,
système à points à la canadienne finalement. Les Japonais se sont inspirés du modèle canadien et ont adopté, en tout cas tel qu'il est compris en ce moment, donc avec un système à points, en fonction d'un certain nombre de critères, on gagne des points et quand on arrive à un certain seuil, on a porte ouverte au Japon. Le problème. Alors, et en plus de ça, le Japon a une politique assez active d'attractivité pour les étudiants étrangers, avec un objectif de 300 000 étudiants étrangers.
Mais il faut parler japonais.
Alors, pas nécessairement, pas mais effectivement, le pourcentage de cursus qui sont disponibles en langue étrangère, en anglais notamment, est somme toute limité. Donc c'est peut-être ça l'obstacle. C'est pas une condition sine qua non, y compris pour les travailleurs hautement qualifiés, de parler japonais. Mais l'obstacle se trouve ailleurs. Il se trouve dans l'intérêt des firmes étrangères pour recruter ces travailleurs qualifiés, mais également dans l'offre qu'il aurait faite. Et on revient sur la question, de la culture de gestion des ressources humaines au Japon, le fait que les progressions de carrière sont très lentes, qu'il y a un côté très hiérarchique, et que ces jeunes diplômés et cette main-d'œuvre hautement qualifiée qui finalement s'offre sur le marché mondial, voient pas dans le Japon des opportunités particulièrement importantes. De sorte que le stock de migrants hautement qualifiés au Japon qui sont passés par ce programme et de 8000 environ, 300 personnes seulement en 2017, donc c'est presque personne qui est attiré. Pour les étudiants étrangers, c'est mieux, mais il y a beaucoup d'étudiants qui viennent finalement dans des cours de langue plutôt à faible niveau, qui ont le droit de travailler jusqu'à 28 heures par semaine et qui contribuent donc à l'offre de travail immigrée au Japon. Mais pas forcément dans la logique initiale qui est celle de faire venir des talents, de les faire rester au Japon. Et donc il y a une sorte, disons, de volonté, de reconnaissance de cette nécessité d'être attractif, mais une sorte d'échec de ce programme. Quand on en vient par exemple au cas des infirmières, qui effectivement est un petit peu symptomatique, il y a eu des accords économiques qui ont été signés avec l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam notamment, qui facilitent, censé faciliter le recrutement de travailleurs étrangers. Dans le secteur de la santé des infirmières. Mais là aussi, peu de gens sont venus et surtout presque personne n'a réussi à passer les examens qui leur permettent ensuite de travailler durablement au Japon. Donc il y a un certain nombre d'obstacles dans le système qui ne sont pas liés à la politique migratoire, qui est ouverte. Je pense qu'il y a une prise de conscience de ça, mais qui empêche finalement la migration, en ce qui concerne la migration qualifiée et à des niveaux de qualification intermédiaire, de jouer pleinement son rôle.
Éric Scholl, vous dirigez Courrier International et vous êtes notre partenaire depuis l'origine de cette émission. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des jeunes au Japon. Mais pour les moins de 30 ans, c'est pas commode de se faire entendre.
Oui, on peut comprendre pourquoi, parce que les jeunes sont effectivement de plus en plus minoritaires au Japon. Les moins de 25 ans ne forment que 23% de la population, alors que les plus de 65 ans représentent, eux, 28%. Alors tout se passe comme si, depuis l'avènement de l'ère Essai, le Japon avait omis de passer la main à la jeune génération de manière à conserver la viabilité de notre société. C'est ce qu'explique un quinquagénaire interviewé par l'Asahi Shimbun. Justement, ce grand quotidien japonais rappelle que depuis le début de l'ère Essai, c'était en 1989, il ne s'est pas passé grand-chose pour les nouvelles générations. Le journal cite un rapport publié l'an dernier et intitulé « Des individus inquiets, un État paralysé ». Il a été rédigé par une trentaine de jeunes fonctionnaires et lorsqu'il est sorti, ce rapport a eu beaucoup de retentissement, téléchargé près d'1,5 million de fois. Il a suscité une pluie de commentaires sur Internet. On a du mal à croire que ce document est l'œuvre de fonctionnaires de l'État, explique l'Asahi Shimbun, car non seulement il reconnaît que le Japon est paralysé, mais on y relève également de sévères critiques contre une société indifférente à ces générations actives. Alors, les auteurs brossent au fil des pages le portrait d'une démocratie des seniors, comme si, explique-t-il, le Japon se cramponnait à une époque déjà révolue. Cette époque, c'est celle de l'ère Showa, qui a duré 6 décennies jusqu'à la mort de l'empereur Hirohito en 1989, et qui a été marquée, rappellent les auteurs, par une forte croissance, la prise en charge totale de l'individu par l'entreprise, un modèle familial composé d'un couple et de 2 enfants, ou encore le financement du système de sécurité sociale par une importante population active. Mais tous ces piliers se sont effondrés, et aujourd'hui, c'est la jeune génération qui en fait les frais, résume le fameux rapport. Il y a 20 ans, l'écrivain japonais Taichi Sakiya publiait un ouvrage intitulé « Les 30 années de l'ère Essai ». Âgé aujourd'hui de 93 ans, il commente aujourd'hui son ouvrage dans l'Asahi Shimbun. C'était un roman d'anticipation alors que la population continuait à diminuer, la centralisation dans la région de Tokyo progressait, les régions déclinaient et la dette nationale grossissait. Et il conclut, le Japon était encore plus inactif que j'anticipais.
Par rapport au grand voisin et rival chinois, qui est aussi en déclin démographique, les jeunes japonais sont néanmoins mieux traités que les jeunes chinois.
Alors effectivement, il y a une comparaison qui a été faite par le journal chinois The Economic Observer, c'est un peu l'équivalent du Financial Times en Chine, et qui fait cette comparaison avec les jeunes chinois, ceux qu'on surnomme les petits empereurs ou les petites princesses, car ils appartiennent à cette génération d'enfants uniques, avec 6 adultes pour veiller sur chacun d'entre eux. Comme l'écrit le journaliste, c'est la génération la plus chanceuse depuis la fondation de la Chine moderne, mais ces jeunes Chinois ne réalisent pas qu'il y a au Japon encore plus chanceux qu'eux, et poursuit-il, tout simplement, résume ce chroniqueur, parce que les jeunes Japonais sont une denrée rare, et ils sont si peu nombreux quand on regarde la démographie du pays, que l'on peut les comparer au nombre de pandas dans la province du Sichuan en Chine. C'est une espèce protégée, un trésor national, commente le journaliste dans cet article chinois qui a été repris et traduit par le site WorldCrunch. Les statistiques publiées dans le Financial Times, cette fois, donnent une idée de cet effet de rareté. En 2017, on comptait au Japon 2300 jardins d'enfants de moins que 7 années plus tôt. Le nombre d'élèves ayant chuté de 19% et près de 2000 écoles primaires ont fermé au cours de cette même période. On comprend mieux pourquoi lorsque les jeunes sortent de l'université, ils n'ont guère de problèmes de chômage, car chaque année le nombre de diplômés se réduit. On en comptait 567 000 en 2017 et près de 98 d'entre eux ont trouvé un emploi, un chiffre record, précise le journal chinois The Economic Observer. Les jeunes gens d'aujourd'hui ne savent pas vraiment ce que le mot « concurrence » signifie, poursuit le chroniqueur. Comme il n'y a pas assez de bacheliers, toutes les universités se battent pour les recruter.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Sébastien Le Chevalier, cette rivalité avec la Chine, est-ce qu'elle signifie, quand on voit à la fois l'ampleur des ambitions chinoises et la rapidité de son développement économique, est-ce que cela signifie que le Japon, qui a été longtemps le champion économique en Asie du Sud-Est, et que est-ce que le Japon est en train de perdre ce rôle de leadership économique?
Oui, clairement. Hein, on a assisté depuis une dizaine d'années à un changement de leadership dans la région qui est assez, d'ailleurs, équivalent à ce qui s'est passé dans le monde occidental et en Europe au début du XXe siècle. Donc, ce leadership s'exprime par la puissance productive, par la puissance financière chinoise. Dans le même temps, la réputation du modèle de développement japonais dans les pays d'Asie du Sud-Est, notamment, reste intacte. Et on peut tout à fait, quand on interviewe des dirigeants ou des dirigeants politiques ou des dirigeants d'entreprises en Indonésie, en Thaïlande ou en Malaisie, on peut tout à fait observer quand même toujours une certaine admiration pour cette trajectoire de développement, pour la réussite de ce pays du point de vue du niveau de richesse qui a été atteint. Mais il est vrai que aujourd'hui la vraie problématique, la problématique principale pour le Japon, en dehors des questions démographiques, c'est effectivement l'affirmation d'une suprématie chinoise à l'échelle régionale et à l'échelle mondiale.
Shinzo Abe a accepté le principe de négociation commerciale bilatérale avec les États-Unis, qui sont en pleine croisade protectionniste et en particulier en plein duel commercial avec Pékin. Jusqu'à quel point est-ce que cette politique de Shinzo Abe, que l'on a vu jouer au golf et jouer au golf et jouer au golf avec Donald Trump, est-ce que ça peut porter ses fruits, alors que si j'ai bien compris, l'industrie automobile japonaise est quand même peut-être directement menacée par la Maison Blanche.
Alors, le contexte très délicat pour Monsieur Abe, c'est qu'il a joué, il a véritablement, comme le disait Guibourg de la Motte tout à l'heure, il a été très très fort politiquement, et au moment de son élection fin 2012, il a été contre son parti en faveur de la participation du Japon au fameux traité transpacifique et qui créait la plus grande zone de libre-échange dans le monde.
Voulu par Obama. Et dont les États-Unis de Donald Trump se sont retirés aussitôt qu'il a été élu.
Exactement. Et ça, pour le coup, là, il n'a pas eu beaucoup de chance, puisqu'il espérait, enfin, personne au Japon n'imaginait que Trump puisse être élu. Et il y avait, de ce point de vue-là, une très forte continuité entre Hillary Clinton et Obama, même si, au moment de la campagne, Hillary Clinton avait aussi critiqué certains aspects de cet accord. Donc, à partir du moment où les États-Unis se retirent de cet accord multilatéral, ce qu'il reste à Abe, hein, c'est effectivement de tenter une négociation bilatérale avec les États-Unis. Et je dirais, il y a quelque chose de tout à fait comparable avec la tentative d'Emmanuel Macron de jouer une carte personnelle avec Trump. Et je crois que les résultats sont à ce jour aussi modeste, hein. C'est-à-dire que effectivement Shinzo Abe, comme vous le rappeliez, a beau jouer merveilleusement bien au golf avec le président américain, il reste fondamentalement sur un strapontin, et je dirais que dans la représentation trumpienne du monde, eh bien, même si officiellement la guerre commerciale est tournée vers la Chine, finalement Trump est quelqu'un qui respecte la force, et il est fort possible que le Japon ne bénéficie pas des mêmes conditions que la Chine, parce que le rapport de force n'est pas aussi favorable au Japon dans ses relations avec les États-Unis. On peut prendre le cas de l'Iran, hein, de la situation de l'Iran, en tout cas la politique américaine à l'égard de l'Iran et des partenaires commerciaux de l'Iran. Comme vous le savez, la Chine a été mise de côté pour le moment. Le Japon, lui, ne pourra pas faire ce qu'il voudra du point de vue de ses relations commerciales international.
Guibourg de la Motte, est-ce que cela veut dire que la Chine est devenue, les ambitions chinoises et d'abord au niveau régional, la Chine est devenue véritablement la hantise du Japon d'aujourd'hui?
Oui, ça c'est certainement. C'est-à-dire la hantise, ils ont des raisons assez, comment dire, des raisons assez assez manifestes de si vous voulez d'être un peu inquiet, parce que bon, il y a pas seulement la concurrence économique, ça c'est un aspect à la limite qu'ils sont tout à fait prêts à prendre en compte et à auquel ils peuvent faire face, mais c'est vrai qu'ils doivent aussi faire face à par ailleurs des incursions de maritimes, aériennes, à une montée en puissance militaire, à une présence balistique, outre effectivement le fait que la Chine soit une puissance militaire par ailleurs. Dans les négociations avec la Corée du Nord, bon, le rôle de la Chine est important également, et le Japon évidemment est pas du tout sur la même ligne que la Chine forcément. Donc c'est incontestable. Si vous permettez, sur l'accord de libre-échange, on peut parler davantage de la Chine. L'accord de libre-échange, c'était en fait une bonne idée de la part de Monsieur Abe. Là aussi, ça manifeste sa réactivité.
Et d'ailleurs, il continue d'encourager les pays d'Asie du Sud-Est à y rester, plus l'Australie.
Vous voulez dire le TPP? Alors oui. Le TPP plus 11, ils l'ont fait, et donc en effet, ils le maintiennent, ils le font sans les États-Unis.
Voilà.
L'idée étant qu'un jour ou l'autre, ce sera peut-être suffisamment attractif, le président va peut-être pas rester, etc.
Mais
l'accord de libre-échange dont vous parliez, oui. C'était une bonne idée, point de vue, c'était un bon point stratégiquement, parce que sinon, il y aurait eu des sanctions immédiates, des taxes immédiates imposées à l'industrie automobile japonaise. Vous voyez, donc il a
opté pour... Et c'est 40% du marché américain, hein.
Voilà, donc il a opté pour la négociation d'un accord de libre-échange qui permet effectivement d'aborder un certain nombre de problèmes de manière plus générale.
Mais revenons à la manière dont Shinzo Abe, qui multiplie les rencontres internationales, il a vu plusieurs fois Vladimir Poutine, on a vu qu'il se rapproche aussi de l'Inde, avec qui il s'agit de créer, si j'ai bien compris, un front démocratique uni, l'Inde, l'autre géant démographique, pour le coup, en Asie du Sud. Sud-Est, qui est sur le point de dépasser la Chine. Jusqu'à quel point est-ce que Shinzo Abe a des cartes à jouer par rapport aux ambitions chinoises du président Xi Jinping?
Alors, oui, depuis une dizaine d'années, disons, et ça date très largement de M. Abe, en effet, 2007, hein, son premier mandat, le Japon, effectivement, met en place une sorte de diplomatie qui d'ailleurs, n'est pas sans rappeler celle qui a été engagée à l'initiative de M. Obama, de rééquilibrage, disons, de la puissance chinoise. Et ça passe, en effet, par l'établissement de relations approfondies, appuyées, avec l'Inde, avec l'Australie, avec même les pays de l'OTAN, avec la France, le Royaume-Uni, le développement d'une coopération industrielle également. Donc il y a là, en effet, avec les pays d'Asie du Sud-Est qui sont aidés militairement, enfin même si ils sont aidés par le biais de l'aide publique au développement japonaise, donc par le Japon, les pays d'Asie du Sud-Est sont aidés à faire face à la Chine. Donc notamment les pays qui ont des contentieux maritimes avec la Chine. Donc de ce point de vue-là, il y a une diplomatie très très générale. Qui est à l'œuvre, une stratégie qui passe également par l'idée de Free and Open Indo-Pacific, donc un océan Indo-Pacifique ouvert et libre. Voilà, et en effet, vous l'avez dit, avec l'Inde, il y a cette idée de communauté de valeurs, comme avec nous d'ailleurs.
On sait aussi que Shinzo Abe a une obsession, c'est de modifier la constitution japonaise, qui est par principe une constitution pacifiste.
Ouais.
Est-ce que c'est véritablement une priorité qui va rester à l'ordre du jour?
Oui, ça reste une priorité. Donc là, il est question de refaire une réforme des retraites d'ici 2020. Et un autre chantier, disons, c'est en effet éventuellement l'adoption d'une révision de la Constitution. Et c'est un autre exemple néanmoins de pragmatisme de Monsieur Abe, parce qu'il a considérablement changé en fait l'optique et elle a été ajustée, disons, à ce que l'opinion est prête à accepter, qui est donc une révision tout à fait à minima. Donc la proposition qui est sur la table là actuellement, c'est d'insérer l'existence des forces d'autodéfense dans l'article 9 en le maintenant intégralement par ailleurs. Donc simplement pour dire, le Japon est doté d'une armée, non pas une armée, justement garder le terme même de force d'autodéfense.
Et on voit que le Japon joue un rôle international en participant notamment à des forces des Nations Unies nettement plus affirmé qu'auparavant.
Oui, alors là, ça reste très limité quand même. Là, il n'a plus personne, à dire vrai. Il y a peut-être deux personnes encore au Soudan.
Ah oui, ça, c'est pas beaucoup.
Voilà, c'est pas beaucoup. Donc, en fait, si vous voulez, là, il y a une habileté hein, également de M. Abe. C'est qu'on a l'impression que le Japon est plus présent, mais il fait très attention à ce qu'il fait. Il ne faut surtout pas, pour le moment, que les forces d'autodéfense décèdent, etc. Mais il y a néanmoins une volonté affirmée d'être plus présent, c'est vrai.
Est-ce que le déclin démographique, selon vous, oblige le Premier ministre et son gouvernement, qui n'est pas très populaire, Monsieur Abe, même si son taux de popularité ferait rêver certains. Enfin, il est quoi, aux alentours de 40%, c'est ça ?
Oui, il a un petit peu baissé en 2017, mais il reste bon.
Néanmoins, est-ce que ce déclin démographique le contraint à afficher davantage de volontarisme sur la scène internationale ?
Alors là, pour le coup, je suis pas sûre qu'il y ait un lien direct, encore que, évidemment, l'idée de déclin, de manière générale, oblige certainement à plus d'activité de l'autre côté. Je crois que l'idée, plutôt dans la présence internationale qui est manifestée, enfin le souhait d'être présent, visible, et même la volonté, disons la continuité au pouvoir qu'incarne donc Monsieur Abe, là l'idée est en effet de renforcer le Japon, son influence sur la scène internationale, et là c'est plutôt, on revient à l'idée de la concurrence de la Chine. Si vous permettez, est-ce qu'on a le temps de dire encore un mot
non,
de Gaune?
Pardon, parce que justement, je voudrais que nous arrivions à la conclusion de cette émission, donc on va pas aller en marche arrière. Et sur cette notion de est-ce que le déclin démographique annonce ou non un déclin tout court, c'est la question que j'ai posée à Jean-Marie Bouissou, sa réponse.
Oui. Les Japonais ne pensent pas en termes de déclin. Nous avons une vision de l'histoire et du temps historique qui est comme une flèche, pas une flèche qui avance et qui va vers toujours plus de développement. Les Japonais, ils ont une vision cyclique de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des périodes de montée, il y a des périodes de descente. C'est un peu comme des cycles naturels. Donc, ils ont bien le sentiment qu'en ce moment, ils sont dans un cycle déclinant. Mais pour eux, ce n'est pas un sentiment irréversible. C'est quand on en discute avec eux, ils disent « Oui, d'accord, nous, c'est comme ça maintenant, mais vous, dans 20 ans, vous aurez le même problème. Et à ce moment-là, nous, on aura appris comment faire avec. » Ça, c'est une relation qu'on entend assez souvent. Sur le positionnement international, l'opinion est extrêmement troublée. Elle ne voit pas. Monsieur Abe est extrêmement actif sur le plan international. Il enchaîne les séquences de communication. Il enchaîne les visites, les tête-à-tête avec Trump, avec Poutine, avec Xi Jinping, etc. Mais on ne sait pas où il veut aller. Il y a sans cesse de l'action dont personne n'est capable, je crois, de comprendre la ligne directrice. La réalité étant de toute façon que le Japon a très peu de marge de manœuvre face aux Américains. Surtout à un moment où la puissance chinoise ne cesse de s'affirmer régionalement. Par conséquent, ils ont, je ne dirais pas que c'est un sentiment de déclin, ils ont le sentiment qu'on n'y peut pas grand-chose. Et que donc, c'est pas la peine non plus de faire une crispation là-dessus. On verra bien. Ça, c'est quelque chose qui est très très profond dans l'opinion publique japonaise. Hein. C'est, en japonais, c'est ce katagana. On n'y peut rien, on verra bien, il faut faire avec.
Il faut faire avec, mais ce sera la conclusion provisoire de cette émission ce matin. Merci à vous tous, merci à Guibourg Delamotte, maître de conférence à l'INALCO. Vous avez publié précisément avec Jean-Marie Bouissou, mais aussi Chloé Froissart et Gilles Vernier, La démocratie en Asie, c'était aux éditions Piquet en 2015.
Et vous avez, 2017, si vous permettez.
En 2017, voilà. Donc c'est bien, encore beaucoup plus récent.
C'est
donc Japon, Inde, Chine. Merci à Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales à l'OCDE, dont les rapports sont évidemment toujours passionnants et on les trouve très facilement sur le site de l'OCDE. Merci à vous, Sébastien Le Chevalier. Vous étiez dans les studios de France Bleu Gironde à Bordeaux, président de la Fondation France-Japon. Vous avez publié avec Brieux-Montfort « Leçons de l'expérience japonaise ». C'était en 2016 et vous allez publier « Capitalisme asiatique au pluriel » à la découverte, c'est à paraître l'an prochain. De Tokyo, Jean-Marie Bouissou, qui a dirigé Le Japon contemporain et publié Géopolitique du Japon au PUF en 2015. Et merci aussi à Philippe Debrou, professeur à l'université Soka. Merci bien sûr à Eric Scholl, à Luc-Jean Reynaud à la réalisation, Jean Frédérics à la technique, Meryl Moneghetti, comme chaque semaine, à la préparation, et comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.